Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonsoir à tous, Elisabeth Lévy, Olivier Dartigol, oui. Gilles-William Golnadel oui. et Philippe Bilger sont avec nous. Souvent, je vous parle des auditions au Sénat, puisque régulièrement, il y a des commissions d'enquête sur divers sujets. Et je trouve que ce qui se dit au Sénat dans ces commissions d'enquête est absolument formidable. Et là, ce soir, on va vous parler de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Et vous allez entendre Bruno Le Maire. Ce que dit Bruno Le Maire, moi, je ne l'avais jamais entendu. C'était aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce qu'il dit sur les narcotrafiquants est sidérant. Donc je vous propose d'abord de l'écouter. Il va parler de leurs moyens et notamment des sous-marins. Écoutez ce passage.
D'abord, les trafiquants de drogue ont des moyens comparables à ceux des États. C'est une des grandes nouveautés. Ils ont un arsenal technologique, des sous-marins grâce auxquels ils peuvent transporter de la drogue sans être repérés, des balises, des caméras qu'ils positionnent dans les conteneurs de stupéfiants pour mieux les tracer. Ils ont accès à des téléphones cryptés qui leur permettent de communiquer sans aucune crainte d'être écoutés. Ils utilisent des méthodes de corruption des agents portuaires, de menaces contre le personnel politique, comme nous l'avons vu récemment aux Pays-Bas.
Ce que j'aime dans ces commissions d'enquête, c'est que là, on n'est plus face à un journaliste, on n'est plus dans de la communication, on est dans
c'est
des
vrai,
faits.
La vérité.
Exactement, parce que visiblement, c'est sous serment. Et il lit d'ailleurs, hein, chaque mot est précis. Et on apprend plein de choses. Je ne sais pas si vous étiez au courant que les narcotrafiquants ont des sous-marins.
Non, non.
Bon, ça c'est le premier passage. Le deuxième passage, c'est ce qui se passe en France, où il nous explique qu'il y a des cartels sud-américains qui sont en train de s'implanter sur le sol de France et que ça va être trop tard. Écoutez le deuxième passage.
Nous commençons notamment à voir s'implanter des trafiquants étrangers venus de cartels sud-américains sur le sol national. Il faut donc agir vite, car bientôt, il sera trop tard. Nous risquons donc, si les mesures nécessaires ne sont pas prises, de voir apparaître de nouveaux Medellin au cœur du continent européen.
Mais, enfin, vous étiez au courant.
On n'est plus, plus sur la cage d'escalier, là.
Et sur le... C'est étonnant qu'ils tiennent ce discours, je dirais... presque, non pas en opposition, chaque ministre a sa vision de plus en plus pessimiste du narcotrafic.
Mais en plus, je me demande pourquoi c'est lui qui dit ça. D'une certaine manière, on pourrait imaginer que ce soit plus Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
Même si sur le plan de la finance...
Il y a un an ou deux, pardon, il y a eu une interview de la procureure de Paris, de quelqu'un du parquet de Paris, une femme qui s'est spécialisée là-dedans, la procureure, et qui expliquait exactement cela. Qu'est-ce que c'est la différence entre un État narco et un État qui ne l'est pas encore? C'est la corruption des politiques, des juges. Ça existe à tout petit niveau chez nous. Il y a eu quelques élus et il y a surtout le problème des docs, je crois, dont vous avez déjà parlé souvent. Mais elle disait, on n'en est pas là, mais on n'en est pas loin. Et elle disait exactement ce que vient de dire Bruno Le Maire. C'était une interview dans Le Monde. Elle disait exactement la même chose. Elle disait, nous avons aujourd'hui affaire à des cartels qui ont plus, elle disait plus, ou autant de moyens que les États.
Donc, ce que je vous disais sur la solution Salvador... Et d'ailleurs, il va en parler dans une seconde. On, je ne veux pas dire qu'on va y venir, mais bien sûr que pour lutter contre cela, notre arsenal judiciaire n'est absolument pas adapté. Sûr. Est-ce que vous voulez entendre le troisième passage, la jurisprudence, selon lui, à mettre en place ? Bruno Le Maire.
L'idée est de s'inspirer de la jurisprudence sur le terrorisme qui fonctionne très bien. Le niveau de menace, pour moi, est similaire. Il demande la même détermination. Et la même capacité à s'affranchir d'un certain nombre de règles que nous avons respectées jusqu'à présent et dont jouent les narcotrafiquants. C'est ma position de ministre de l'économie et des finances. Je connais les réticences de certains sur les libertés publiques, je peux les entendre, mais pour moi, il faut appliquer au narcotrafic la même jurisprudence qu'au terrorisme. Savoir s'affranchir de certaines libertés publiques pour protéger la liberté collective de nos compatriotes face à cette menace.
On y vient.
Et donc un parquet national dédié.
S'affranchir de certaines libertés publiques, on y vient.
Oui,
enfin, oui. Ben oui, mais... Oui.
Et ça rejoint ce qu'il a dit récemment, je suis davantage partisan d'un État protecteur plutôt que d'un État...
Si c'est la bataille numéro un... Oui. Non, mais excusez-moi, oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites la tête.
Pourquoi?
Vous êtes chafouin.
Non, je ne fais pas la tête. Je voulais simplement ajouter au constat de M. le maire plusieurs choses. Tout ça est lié à l'affaiblissement de l'État.
C'est parce que
l'État s'est affaibli que les narcotrafiquants, qui ne sont pas que sud-américains, pardon, il y a aussi les narcotrafiquants marocains qui sont très puissants, notamment à Barcelone et notamment aux Pays-Bas. Et pardon de le dire également, Monsieur le maire se fait peut-être des illusions sur la puissance des magistrats pour lutter contre le terrorisme. Il y a beaucoup de terroristes qui passent par les mailles du filet en raison également d'un laxisme judiciaire.
Pour le terrorisme, ils ont du mal à accepter que c'est une catégorie criminelle à part.
Exactement.
Vous avez raison sur ce point-là.
Il y a un État démocratique qui réussit à régler le problème. Sauf que le
durcissement judiciaire, c'est en amont. Ça peut avoir sa forme d'efficacité, mais vous ne parlez jamais de l'état du monde et de la nature des trafics financiers portés par certains États sur le blanchiment de l'argent et sur ces grands flux concernant la drogue et les armes. Le capitalisme, dans sa phase mondialisée, se nourrit aussi de ça.
Oui, mais cela dit, tous les États, c'est des systèmes.
En fait, mais vous avez un cerveau qui est tellement différent.
Vous voyez chaque fois la réponse judiciaire. Mais comment vous faites pour tarir le flux?
Ce n'est pas le souci. Je pense à la France. J'adore vous écouter pour ça parce que c'est un cerveau qui est tellement différent du mien.
Oui, heureusement.
Bien sûr,
parce que
vous avez raison.
Vous prenez une dimension, je prends l'autre.
Mais il y a quand même des trafics.
Mais les trafics, ce qui m'intéresse, c'est la France. Donc je veux montrer à ceux qui viennent trafiquer en France qu'ils ne pourront plus trafiquer en France. Donc à la première ou à la deuxième fois, ils ne sortent plus jamais.
Vous vous rappelez Midnight Express? Plus jamais.
Voilà.
Vous vous rappelez le film Midnight Express?
Exactement.
Intéressant parce que ce film montrait qu'il y avait des pays.
Il est mort, le pauvre.
Oui, qui est mort dans le film. Je dis juste, si vous voulez, je ne sais pas.
Il est mort du sida.
Je ne vois aucun État démocratique, même ceux qui, quand même, les Américains sont un peu moins, disons, soucieux des chichis de liberté que nous, qui réglaient le problème.
Je ne sais pas jusque-là, mais d'accord.
Alors, certaines choses sont des chichis, ce n'est pas toutes les libertés.
Billy Hayes, il s'appelait.
Là où Monsieur le maire a également raison, c'est qu'il y a un phénomène qui devient plus que préoccupant, c'est aussi la corruption au niveau des fonctionnaires de police, qu'on ne connaissait pas avant et qui s'exerce soit par l'argent, soit par la menace.
Dernier passage, le rapport entre les narcotrafiquants et le terrorisme. Et Midnight Express, c'était, comme chacun sait, de...
Tony Parker.
Non, Tony Parker, c'est le basketteur.
Alan Parker, franchement, je vous trouve quand même un peu...
Vous savez que vous pouvez revoir d'ailleurs ce film de 78 qui a pris une ride absolument formidable. Le rythme est formidable ce film. J'ai vu il y a un an. Ben, la musique, tiens, on l'écoutera. Je vais demander à Benjamin Nau de la sortir pour la fin de la première mi-temps, si j'ose dire, de notre émission. Mais écoutons une dernière fois Bruno Le Maire aujourd'hui.
Non seulement les deux phénomènes de narcotrafic et de terrorisme sont comparables dans leur intensité et la menace qu'ils font peser sur la France, mais ils sont liés. Je confirme les liens financiers qui existent entre le terrorisme et les narcotrafiquants. Et nous disposons de tous les éléments pour confirmer ces liens qui peuvent exister entre le financement du terrorisme et les narcotrafiquants.
Donc moi, je trouve que c'est intéressant ce que la vie, j'ai proposé.
Il y a une autre similitude, la totale indifférence de ces deux univers criminels aux morts qu'ils créent.
Oui, bien sûr, mais vous avez parfaitement raison. Mais je trouve intéressant vraiment ce qui se dit là, parce que c'est, me semble-t-il, la mère des batailles, c'est en tout cas ce qu'a dit Gérald Darmanin, la mère des batailles, c'est la drogue aujourd'hui. Si vous parlez avec un élu local, la première chose qu'il vous dit, même d'une petite ville, mon problème, c'est la drogue, avec des...
Des élus sous pression.
Exactement, et puis des professions qu'on n'imaginait pas forcément il y a quelques années, profession du bâtiment, profession de la restauration, où la drogue est très présente. Donc,
il y a un mois, la mère des batailles était l'agriculture, il y a un mois avant c'était l'éducation, la mère des batailles.
Non, la mère des batailles, oui,
mais celle-là,
elle est très très importante.
Nos États peuvent quand même menacer.
L'échange, le contexte migratoire est net pas.
Mais sans doute, échange à l'Assemblée nationale entre M. Alizio du Rassemblement national et Sabrina Agresti-Roubache, parce que Emmanuel Macron est allé il y a 8 jours à Marseille et il lui pose naturellement la question où on en est.
Monsieur le ministre, il y a une semaine, vous étiez avec le président de la République chez nous à Marseille. Ce n'était que la 13e visite d'Emmanuel Macron à Marseille, à grand renfort médiatique avec le ministre de l'Intérieur et le déploiement de pas moins de 4000 hommes et femmes dans le cadre d'une opération dont le nom fleure bon McKinsey, l'opération PlaceNet XXL. À J+7, il vous est à présent possible de communiquer à la représentation nationale le véritable bilan de cette opération. Monsieur le ministre, ma question est simple. Malgré le formidable travail de notre police et de notre justice, combien y a-t-il eu de mandats de dépôt prononcés 7 jours après le déclenchement de l'opération ?
Depuis 3 ans, donc vous voulez des chiffres précis, vous en aurez. Depuis 3 ans, nous obtenons des résultats significatifs. Les opérations de démantèlement se multiplient, vous le voyez tous les jours, à Marseille, notamment avec moi. Elles sont passées de 15 850 en 2022 à 20 260 en 2023. Dans les Bouches-de-Rhône, ce sont plus de 1350 opérations qui ont eu lieu l'an dernier. Le nombre de points de deal est passé donc de 220 à fin 2020 à 127 en fin 2023. Le ministère de l'Intérieur est évidemment extrêmement investi, vous le savez, a aussi souhaité intensifier sa lutte à Marseille, où les rivalités, vous le savez, entre les groupes font rage.
Ah, c'est drôle. Hein.
C'est pas la réponse. Hein.
On lui demande combien il y en a eu depuis une semaine et elle part depuis 10 ans.
Ouais. Non, mais vous avez raison.
C'est pas la réponse. Si je peux me permettre.
Mais j'espère que ça n'est pas parce qu'elle ne pouvait pas répondre sur la.
Bah si, c'est évidemment pas.
Ah, mais là, par exemple, moi, ce qui m'étonne, il devrait avoir un droit. Tous les journalistes de France devraient être à Marseille aujourd'hui et de voir 8 jours après ce qui se passe.
Oui.
Oui, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas efficace? Qu'est-ce qui change de ça?
Oui, et vous leur demandez d'enquêter. C'est ça.
Non, mais il y a eu de bons papiers sur une semaine après. Non,
8 jours après, de voir.
Tout a repris.
C'est ça qui est intéressant de voir. Et j'ai peur. Et c'est terrible parce que tu n'as pas envie non plus d'attaquer le gouvernement là-dessus. C'est très bien.
Non, c'est bien.
C'était la une de la Provence.
Ça ne vous a pas échappé. Et c'est une qui avait été contestée.
Oui, enfin, oui, parce que. Pour des raisons. C'est pas ce que voulait dire la Provence dans le titre.
Enfin, bah si, la Provence voulait dire ils sont partis quand le président est parti.
Oui, non, mais
on s'est réinstallé.
C'était très clair. Simplement, effectivement, ce n'était pas.
J'ai dit une bêtise.
C'était pas de la bonne communication pour Emmanuel Macron.
Non, c'était pas la bonne ligne, quoi. Voilà.
Mais ça laissait à penser.
Ça laissait à penser
que c'était les dealers qui faisaient cette réflexion là.
Non, voilà. Il n'y avait pas d'ambiguïté.
Alors là, franchement, vous charriez.
Il n'y avait pas d'ambiguïté.
Non, pas forcément les dealers.
Il n'y avait aucune ambiguïté.
La polémique, c'est ça.
Oui.
La polémique, je rappelle la polémique. Oui. La polémique, c'était de laisser à penser à une partie du public que le journal voulait dire que c'était les dealers. Il dit les politiques sont partis, nous on est là. Alors que le journal disait que c'était pas les dealers, c'était la population.
Ah non.
Oui. Bah,
non mais c'est une lecture c'est une lecture sublime.
Ah, évidemment que c'était les dealers disaient mais nous on est là, c'était pas la population.
Mais d'ailleurs ils l'ont écrit tout de suite.
Je n'ai jamais été aussi didactique que ça. Je vous rappelle les termes de la polémique.
En plus on parle
d'inventé.
D'où vient cette pudeur soudaine?
Je prends Monsieur Bilger à témoin.
Oui, mais en plus on parle de quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément, parce que la une de la Provence, je ne sais pas s'ils l'ont en tête.
vous qui avez décidé de lancer le...
Non, nous sommes dans un quartier, on voit un
est-ce qu'on a la une de la Provence
mais... Un quartier,
et puis on peut pas la sortir comme ça.
Deux jeunes de dos.
En tout cas, ce directeur de la rédaction a été réintégré. Il devait être viré, et puis finalement, il est réintégré.
Absolument. Et on se réjouit pour lui.
Exactement, on se réjouit pour lui.
Nous attendons la même...
La liberté d'expression...
Nous attendons la même chose pour Jean-François Akili.
Exactement.
Ah oui,
voilà. Exactement. D'ailleurs, sur Jean-François Akili, j'ai l'impression que Reporters sans frontières ne s'est toujours pas manifesté. Non. Mais bon,
c'est bizarre. C'est
une bonne remarque.
Voilà, la une de la Provence, Benjamin nous l'a trouvé d'ailleurs. Voilà. Il est parti et nous, on est toujours là. C'est pas les habitants. Voilà. Bon. Mais peu importe.
Pourquoi les habitants, ils ont
c'est pas un marché provençal.
C'est
pas un marché provençal.
Ils ont pas le droit d'avoir un petit paletot, les habitants. Je comprends pas, moi.
Allez. Le professeur. Ça, c'est une information, c'est terrible. Le proviseur du lycée Maurice Ravel a quitté ses fonctions. Alors, qui est le professeur proviseur? C'est après de multiples menaces de mort sur Internet, à la suite d'une altercation avec une élève au sujet du port du voile. Le proviseur du lycée a quitté aujourd'hui ses fonctions. On en est là. On en est là en France aujourd'hui. C'est lui qui s'en va. La France insoumise s'est mêlée de ce sujet. Elle a fait pression. Le proviseur, l'autorité est bafouée. Tout le monde s'en fiche, etc. Et c'est lui qui s'en va.
Et l'indignité vient du communiqué du recteur. Ouais.
Selon ce message adressé mardi aux parents, élèves, enseignants et membres du conseil d'administrateur, le proviseur a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. Pourtant, selon un message du rectorat, le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel, accompagné et soutenu par les services du rectorat, a quitté son poste pour convenance personnelle. Vous vous rendez compte, un nouveau proviseur a pris ses fonctions au sein de l'établissement le 25 mars.
C'est vraiment une...
Et alors, tout ça parce qu'il a fait une remarque à une jeune femme
le voile,
qui avait le voile.
BTS, oui. Parce qu'il a fait
le rapport de force. Voilà.
Parce qu'il
a fait respecter
la loi.
Exactement.
Et
il est obligé de partir.
Non, mais c'est une défaite épouvantante.
Madame,
c'est une défaite
si vous ne voyez pas ce qui se passe, si c'est vous ne voulez pas voir...
Vraiment un scandale d'État, cette
histoire. Mais de la jurisprudence Attal qui dit « j'amène l'éducation à Matignon ».
Mais tu peux plus.
Le Premier ministre...
Il n'y a plus de solution. Il n'y en a plus.
Si, il y avait le protégé, je suis désolé. Il y avait le protégé.
La baïa, c'était un peu plus simple.
Comme, voilà, vous avez aujourd'hui des rapports de force qui ont changé.
Mais Pascal, s'il faut mettre, je suis désolé, s'il faut le protéger, comme beaucoup de gens sont protégés, il faut le protéger. C'est une défaite. Ça dit aux islamistes, ça dit aux terroristes.
Écoutez d'abord, si vous le voulez bien, Tanguy Hamon.
Face aux menaces de mort qu'il a reçues, le proviseur du lycée Maurice Ravel, dans le nord de Paris, a décidé de démissionner. Il a envoyé un message aux enseignants, aux élèves et à leurs parents pour leur indiquer qu'il quitte ses fonctions pour raison de sécurité. Le rectorat a confirmé son départ en évoquant de son côté une question de convenance personnelle. Pour rappel, le proviseur est menacé de mort sur les réseaux sociaux depuis qu'il a demandé à 3 élèves d'enlever leur voile à l'intérieur de l'établissement. L'une d'elles l'avait ignorée et avait provoqué une altercation. Elle avait ensuite déposé plainte en prétextant avoir reçu un coup de sa part. Les premiers éléments ont rapidement permis d'écarter toute violence de la part du proviseur. Il a depuis reçu de nombreux messages de soutien et a lui aussi déposé plainte. Suite aux menaces de mort qu'il a reçues, un individu de 26 ans a été interpellé il y a peu. Il doit être jugé durant le mois d'avril.
Et on écoutera après la pause le représentant du SNALC, Maxime Repère, qui dit évidemment le rectorat, le ministère minimise ce qui s'est passé. Mais pas de vague, ça n'existe pas. Et demain, France Inter n'en parlera pas. Et ce soir, les grands journaux de TF1 et de France 2 n'en parleront pas.
On vérifiera, mais c'est circulaire.
Et ça devrait être la une de tous les journaux. C'est une affaire d'État.
Moi, je peux vous dire qu'à 19h, France Info n'en parlait pas.
Mais évidemment,
on
marque une pause. Est-ce que vous sauriez reconnaître, on marque une pause, j'avais demandé la musique de Midnight Express.
Oui, bien sûr.
Écoutez,
Qu'on va la reconnaître maintenant que vous nous avez dit ce que c'était.
Oui.
Oui.
Donc ça, c'est une musique extraordinaire. Ça date de 78, Midnight Express. Mais... Et c'est la question.
Que ça a un peu vieilli sur le plan instrumental, vous me permettrez.
Vous avez bien l'air d'avoir vieilli.
C'est un mélomane qui vous le dit.
Non, mais c'est le fait de.
pop. Oui. On en parle.
C'est de...
Bon. Mais attendez-vous.
Ça n'a pas du tout dit. En revanche, est-ce que vous seriez capable de dire qui a écrit cette musique? Ah oui. Et oui, vous ne savez pas. C'est un peu répétitif au départ. Il y a un côté. Boléro de Ravel, un peu.
Ça fait plus Cérone. Hein. Ça fait un peu plus. Ça fait plus Cérone, mais vous.
Pourquoi non,
vous
c'est pas Cérone.
Ça fait. Non, ça n'est pas Cérone. On sait bien que c'est pas Cérone.
Bon, qui est l'auteur, Pascal?
Giorgio Moroder.
Oh là mais non. Ah bah oui, lui, Giorgio Moroder. Je répète, il répète ce que dit l'autre.
Non, non, et puis là, mais non,
Giorgio Moroder.
Vous avez dit vous-même que vous n'étiez pas mélomane, alors.
Ah non, mais il écoute Bach.
Ah oui, bah, c'est pas incompatible.
Oui, je préfère Bach à ça. Et... sincèrement.
Ça n'a pas,
ça n'a pas de oui.
Ça n'a mais ça a terriblement vieilli.
Mais c'est
ça.
Juste le début.
Et vous n'avez pas vieilli? Un peu.
Et Pascal, je voulais dire France Allez, Info a parlé
nous
de Ravel.
L'antenne, oui.
Bon, ben, c'est très bien.
On ne devait pas rendre l'antenne, vous avez vu, mais on l'a. C'est plus ce que vous faites, vous.
C'est l'âge. À tout de suite.
Allez.
On rappelle les faits. Le 28 février, le proviseur dont on parlait à l'instant avait rappelé à 3 élèves leur obligation de retirer leur voile dans l'enceinte de l'établissement, selon le parquet. L'une d'elles, majeure et scolarisée en BTS, avait ignoré le proviseur, ce qui a provoqué une altercation, des menaces de mort à l'encontre du proviseur. L'élève de BTS avait, elle, dit aux Parisiens avoir été tapé violemment au bras par le proviseur. Le ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, s'était rendu début mars au lycée Ravel pour soutenir le proviseur, avait déploré des attaques inacceptables. Un jeune homme de 26 ans, originaire de Haute-Seine, a été interpellé dans cette affaire. Il sera jugé le 23 avril à Paris pour avoir menacé de mort sur Internet le proviseur. Et aujourd'hui, on a donc appris que le proviseur du lycée, Maurice Ravel, a quitté ses fonctions après de multiples messages, de multiples menaces de mort. Et il y a ce communiqué du rectorat. Le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel, accompagné et soutenu par les services du rectorat, a quitté son poste pour convenance personnelle. Eh ben non, effectivement, c'est pas exactement ça. Donc le rapport Maxime Repère, qui est du SNALC, vice-président, a pris la parole.
Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont poussé le rectorat à donner une justification différente de celle du chef d'établissement, mais en tous les cas, ça donne clairement une impression de minimiser les choses, et quelque part, ça ne rend pas hommage au courage et au travail de ce chef d'établissement. Je regrette naturellement cette démission, mais qui n'est ni plus ni moins que le reflet d'une situation complètement désastreuse et préoccupante.
Et donc cette jeune femme qui avait refusé d'enlever le voile, ben, elle a gagné.
Oui, mais...
Elle a gagné.
Non, mais... Je suis curieux de voir à quelle peine sera prononcée contre... Bon. Celui qui a menacé de
la mort. Je préfère pas le savoir, en fait.
Mais la réalité, c'est que la peur règne dans le monde enseignant.
Bien sûr.
Et c'est normal. Enfin, écoutez, on nous a tués. C'est un islamiste tadjik qui a assassiné Samuel Paty.
Tchétchène, non ?
C'est un islamiste tchétchène qui a assassiné Dominique Bernard. Il faut comprendre ça. Il faut voir aussi la poussée. Hein. On parlait de ce qui se passe en Russie. Il faut comprendre ça. Le nombre, c'est une chose terrible. La réalité, c'est qu'ils ont réussi à instiller, à juste titre, un climat de peur dans l'enseignement. Et si jamais vous ne cédez pas à leur chantage, alors vous êtes menacé de mort. La réalité, elle est là.
Oui, mais elle n'est pas que là. Elle n'est pas que là.
Mais enfin, je veux dire,
on ne voit qu'un côté. En fait, on voit le côté des enseignants et on continue à se bercer de l'idée qu'il y a des terroristes qu'on combat et que derrière, il y a une toute petite minorité. Mais les islamistes, ils mènent deux combats. Un combat culturel pour endoctriner les musulmans et un combat militaire, si je puis dire. On se bat sur le front militaire. On a complètement renoncé sur le plan culturel en se cachant la réalité. Parce que qui sont ces gens qui, dès... qu'on leur parle de la loi française à qui on demande simplement d'enlever leur voile, considèrent que ça doit produire des menaces de mort et ce genre de choses.
Vous passez par pertes et profits le moment à Baïa, où il y a eu une quasi-unanimité politique et où dans les sondages d'opinion, c'était un écrasant soutien à la décision de l'éducation, du ministre de l'éducation à l'époque, Gabriel Attal. Là, notre société, en ce moment-là, elle a tenu, elle a montré qu'elle était, qu'elle réagissait.
Mais parce qu'on a eu un ministre qui était convaincu.
Mais on ne veut pas voir l'ampleur du problème.
Exactement. Mais
le nombre... pardon de vous le dire, le nombre, c'est une grande chose.
Exemple, on a un exemple. Et... bon, alors, certains diront, bien sûr, je sais que Mediapart prépare un sujet sur CNews et reproche à CNews de parler...
Ah ben, on les sait.
Que des faits divers. Excusez-moi, mais là, j'ai un souci.
Oui, Mediapart, oui.
Vous voulez un mouchoir ?
Oui, parce que j'ai éternué tout le temps. Non, c'est l'allergie du printemps.
Mediapart, c'est le journal d'où venait la journaliste qui envoyait de l'argent aux djihadistes et qui vient d'être condamnée. C'est Mediapart qui va nous donner des leçons.
Ils ont préparé un grand sujet qui devrait ces prochains jours. Oui. Et effectivement, ça va être très intéressant. Et parmi leurs remarques, ils disent vous parlez plus de sujets, comme on vient de parler, que d'autres médias.
Oui. C'est possible.
C'est possible.
C'est possible. Oui.
Mais est-ce que c'est légitime ou pas ? Est-ce que c'est légitime ou pas ?
Moi, très sincèrement, je pense que je peux dormir du sommeil du juste si jamais j'étais un tout petit peu écorné par le journal créé par M. Edvy Plenel.
Je pense que Tartuffe National, comme chacun sait, et qui a donné une grande interview à France Culture. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview, je l'ai dit ce matin, je le répète. Grande interview en majesté reçue Edvy Plenel sur France Culture, où le journaliste lui dit « Mais comment le journalisme va faire sans vous, puisque vous êtes aujourd'hui à la retraite sur France Culture ?» Mais qui ne lui rappelle pas, évidemment, son enquête sur Dominique Baudis, qui ne lui rappelle pas de ses prises de position sur Munich 62.
Mais c'est une antenne plénélisée.
Mais Pascal, je vous trouve trop sévère avec Mediapart. Tiens. Moi, je déteste l'idéologie d'Edvy Plenel, mais Mediapart, sur le plan de l'investigation, c'est remarquable.
Sauf, cher ami, que en l'espèce, dans l'enquête de CNews qu'ils ont fait, il y a plein de gens qui peuvent leur dire certaines choses, et puis il y a d'autres
je
gens qui leur
disent. Je ne pensais pas CNews. Hein.
Oui, alors attendez.
Non, mais je pensais à des choses.
Attendez les méthodes.
Mediapart
pratique un journaliste de délation. Ils lancent des appels à délation tous les 4 matins.
Mais vous êtes pas forcément. Rupture de Mediapart.
Non, mais il y a un problème.
Mais c'est important.
Mais il y a un problème.
C'est important de le préciser.
Non, un mot.
Oui, mais
un
ça. Mot.
Il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait un journal qui faisait de la très bonne investigation qui s'appelait Minute et qui a été jeté aux orties parce que c'était un journal d'extrême droite.
Pas Minute.
Il faisait.
Allez, soyez gentils, fermez
l'investigation.
Mais
c'était le même. C'était pas la même époque.
Non, mais soyez gentils.
C'est inexact.
Bon, non, c'est pas
soyez gentils, s'il vous plaît. Revenons.
Un sujet qui a sorti.
On peut être d'extrême gauche, mais on peut pas être d'extrême droite. La réalité, c'est
que
c'est délirant. Minute, un journal d'investigation. C'est délirant.
Minute était un journal d'investigation. Oui, monsieur.
Allez, je veux avoir le dernier mot.
Oui.
Mais quel âge vous avez ? Le dernier mot.
Bon. Allons-y.
Soyons sérieux.
Allons-y.
Ah, je pensais que vous alliez arbitrer.
Mais je veux plus arbitrer. Vous avez 5 ans. Je vous demande de changer de sujet. En revanche, on va écouter Gabriel Attal aujourd'hui sur la menace terroriste dans le pays. Hier, nous avons écouté Gabriel Attal qui disait « L'islamisme n'est pas une religion ». Bon, je pense que cette phrase, il ne la dirait pas comme ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, il est intervenu à l'Assemblée nationale. Et effectivement, cette phrase qu'on a extraite du contexte, elle était extraite du contexte, manifestement, il a une position quand même plus rude sur l'islamisme et plus cohérente, j'ai envie de dire. Écoutez ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
La menace terroriste islamiste continue à planer au-dessus de notre pays. Elle est forte, elle est réelle, elle est présente, elle ne s'est jamais estompée. Et il faut dire le mal qui est face à nous. La menace est connue, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est un islam dévoyé qui attaque nos valeurs et qui exècre notre liberté, qui veut détruire nos modes de vie. L'islamisme, c'est une spirale qui commence par la haine et qui mène à la destruction. L'islamisme, à qui nous ne laisserons jamais une seconde de répit. Face à une menace qui ne faiblit pas, notre détermination est totale et notre mobilisation est intégrale. Nous ne faiblirons pas, nous ne baisserons jamais la garde face à un ennemi qui prendrait chaque centimètre de terrain que nous pourrions lui laisser.
Là, c'est clair. Et hier, il avait dit, avant la phrase que je vous ai fait écouter hier, l'ennemi, il a un nom, je le redis ici, c'est le terrorisme islamiste. Il s'immisce partout. L'islamisme, où nous baissons le regard, où nous acceptons le pas de vague, où nous laissons l'angélisme triompher. Alors partout, nous ne devons pas laisser le moindre millimètre au terrorisme islamiste. Et nous agissons partout pour l'asphyxier à l'extérieur de nos frontières, mais aussi à l'intérieur de nos frontières. Nous ne lui laissons aucune chance. Et c'est après qu'il disait, ce n'est pas une religion, la phrase que nous avions commentée hier. Et je pense, effectivement, qu'il était une phrase malheureuse, mais qui ne reflétait pas tout à fait la tonalité de ce qu'avait dit M. Attal. Donc je voulais le dire ce soir. Échange entre M. Marleix à l'Assemblée nationale toujours, aujourd'hui sous le terrorisme.
Je pense que le gouvernement fait des choses totalement incohérentes. On ne peut pas à la fois dire aux Français que la menace elle est au maximum, surjouer comme toujours cette gravité. Évidemment que la menace terroriste elle existe, la menace islamique, elle est là. Je ne suis pas sûr qu'il faille en parler matin, midi et soir pour protéger les Français. Le gouvernement aime la communication anxiogène, vit de ces tensions qu'il crée en permanence dans le pays. Et surtout, l'incohérence, c'est par rapport à ce qui se prépare sur les Jeux Olympiques. On se prépare à accueillir, on voulait accueillir 600 000 personnes sur les bords de la Seine pour une cérémonie d'ouverture avec tous des balcons qui seraient ouverts, des espaces extrêmement difficiles à contrôler. Donc elle est où la cohérence dans tout ça?
Sauf, et là vous allez entendre Jean-François Ricard, qui est le procureur national antiterroriste, qui lui a donné une interview il y a quelques jours, elle date du 20 mars, où il précise que la menace terroriste est XXL, avec une augmentation notamment des affaires. Écoutez ce que dit M. Ricard, qui fait écho à ce que disait Bruno Le Maire il y a quelques instants, et qui peut fortement nous inquiéter.
Entre le 1er septembre 2019 et aujourd'hui, nous avons jugé 81 dossiers de terrorisme djihadiste devant la cour d'assises spécialement composée. 8 fois plus en un peu plus de 4 ans que pendant les 25 années qui ont précédé. Je veux dire, le chiffre est tout à fait éloquent. Ce n'est pas une augmentation, c'est un changement complet d'échelle.
Écoutez maintenant ce qu'il dit sur les détenus radicalisés. Après, je vous donne la parole.
Les détenus radicalisés et les détenus terroristes et les sortants de prison. Je ne vous le cache pas, c'est une de mes inquiétudes principales. Et là encore, pourquoi? Ce n'est pas nouveau. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Ben, c'est les chiffres. C'est toujours parce qu'on est passé de quelques unités, de quelques dizaines, à une gestion de masse.
Et oui, c'est, je vous dis, c'est le nombre. Et M. Ricard a parfaitement raison. D'ailleurs, il n'y a pas une semaine, vous savez, un clou chasse l'autre, où on ne parle pas, il n'y a pas une affaire terroriste. En ce moment, c'est l'affaire de Strasbourg qui passe devant les tribunaux. Personne ou presque n'en parle. Un clou chasse l'autre et c'est effectivement la réalité des choses. Encore une fois, ça devient exponentiel. La réalité, elle est là. Monsieur Ricard a parfaitement raison. Et je trouve que Monsieur Marleix est un peu injuste quand même envers Monsieur Attal. Parce que qu'est-ce qu'on aurait dit si M. Attal n'avait pas traité du terrorisme 3 jours après ce qui s'est passé en Russie?
Ce que dit Jean-François Ricard est d'autant plus impressionnant sur le plan des chiffres qu'au fond, la lutte contre le terrorisme et l'islamisme, d'une certaine manière, c'est une réussite presque indéniable de ce gouvernement. Moi, je trouve... Il est difficile de dire qu'il ne fait pas tout ce qu'il peut.
De la part des réussites, vous allez un peu loin.
Non, mais c'est vrai.
Mais c'est le domaine volonté, où il est le moins médiocre.
Oui.
Et donc, c'est important.
Mais vous avez... Bon, autre sujet, c'est les bonnes nouvelles du jour, c'est le fameux déficit. Alors, j'ai appris ce midi, et j'ai du mal j'avais un économiste qui disait cette chose, j'avais du mal à comprendre. En tout cas, imaginez, on dépense 2 fois plus qu'on a de recettes. Alors je me disais, mais pourquoi on n'a pas 100% de déficit? Bon, on dépense 2 fois plus, vous entendez bien, c'est-à-dire que vous gagnez 5000 euros et vous dépensez 10 000. C'est ça la France d'aujourd'hui. C'est ça la France d'aujourd'hui. Avec ce déficit, c'est
sur
ça
l'ensemble que ça veut dire. Des dépenses publiques.
On reçoit, ouais, je crois qu'on a 400, le budget il est de 450 milliards, je crois, ou exactement.
Et, monsieur D'Artigol.
Et il y a 140 milliards de déficit. Bon.
Oui, mais...
Donc évidemment, ça ne peut pas durer. Évidemment, ça ne peut pas durer. Si tu dépenses deux fois plus mais... que tu n'as de recettes.
Si, ça peut durer.
Je voudrais qu'on écoute monsieur Moscovici, qui est le président de la Cour des comptes sur ce dérapage.
C'est un dérapage dans l'exécution qui est important, pas tout à fait inédit, mais très très rare tout de même. Avec en plus, une chose qu'il faut préciser, c'est que le 4,9, pardon, d'aide technique qui était prévu pour 2023 n'était déjà pas une performance, puisque le déficit de l'année précédente, 2022, était à 4,8. Donc on avait déjà une année blanche, et là on a une année pire, si vous voulez. Et 0,6 points de dérapage en exécution, il faut l'analyser. C'est pas une mauvaise prévision économique, puisqu'en réalité le budget tablait sur 1% de croissance, il y a eu 0,9% de croissance. C'est en partie une baisse des recettes.
Le déficit public de la France a donc atteint 5,5% du PIB. Ouais,
mais d'abord, si ça peut durer, parce que ça dure depuis 40 ans, et que oui, ça, ça dure pour la bonne raison que les Allemands, si vous voulez, acceptent de garantir en quelque sorte nos dettes à l'intérieur de l'euro, ce qui d'ailleurs, vous vous rappelez qu'un jour on a regardé ici une autre commission d'enquête où il était prouvé que si on avait saboté EDF, c'était parce que les Allemands l'exigeaient en quelque sorte. Donc il faut savoir que ça a des conséquences, cette dépendance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on dit qu'on veut réduire les dépenses, donc tout le monde braille parce que la moindre dépense, tout le monde hurle. Je veux dire, à la mort, dès qu'on veut. Et chacun pense qu'on va y arriver juste si l'État fait des économies, que le gouvernement coupe un peu dans ses propres dépenses. C'est une aberration. Si on ne coupe pas dans notre système social, on n'y arrivera pas.
Quand vous dépensez 1 000 euros d'argent public, quand vous dépensez 1 000 euros d'argent public, il y en a 260 qui partent immédiatement à la retraite. Et après, donc, ça doit faire 26% par définition. Et après, il y a 195 qui partent directement à la santé.
Oui.
Donc ces deux postes-là, le reste c'est rien. Le fonctionnement de l'État, fonctionnement plus fonctionnaire plus salaire, vous savez combien c'est ? Quand vous sortez 1 000 euros d'argent public, c'est simplement 66 euros. Mais... ça représente 6%, ce qui est beaucoup plus qu'en Allemagne. En Allemagne, ça doit être que 3%. Oui. Mais c'est
le
non pas peanuts.
Pardon, juste pour être sûr d'avoir compris, c'est 66 euros. C'est
66 euros pour les fonctionnaires.
Mais... d'accord.
Pour les fonctionnaires. Alors plus vous payez là, les salaires et puis vous payez les bâtiments, vous payez, etc.
Elisabeth a raison. Moi, je vais parler comme un béotien, comme un candide au premier degré. Je ne suis pas un grand économiste, comme chacun sait.
Mais si.
Mais non, mais elle, tu as raison. Il y a c'est une maladie française.
On est drogués.
Tous les partis confondus ne vont jamais protester quand le gouvernement décide de donner de l'argent à quelqu'un. Il ne proteste pas. C'est terminé.
C'est la dépense sociale qu'il faut arrêter. Et là, on va se tourner vers monsieur. La retraite privée.
Et les 3 milliards. Dernière
non, mais chose. Attendez.
3 milliards. Où il va être où,
mais oui, c'est, on s'en fiche
où
de
monsieur,
ça.
Mais on
s'en fiche.
Où monsieur Macron va-t-il trouver
c'est les pas 3 milliards.
Je vous pose la question.
Mais c'est pas
où va-t-il trouver les 3 milliards pour l'Ukraine. Il prétend qu'il va trouver.
C'est rien.
Il les a pas.
C'est rien. Vous ne comprenez pas c'est Upsilon. Voilà. En revanche, la retraite privée est non seulement elle est à l'équilibre, mais elle gagne de l'argent. La retraite publique perd de l'argent, perd beaucoup d'argent. Donc pourquoi elle perd de l'argent? Notamment parce que les fonctionnaires, je peux terminer?
Oui.
Leur retraite est calculée sur les 25 dernières années, alors que dans le privé, leur retraite est calculée sur les 6 derniers mois, alors que dans le privé, c'est 25 ans. Mais pourquoi
parce que les niveaux de salaire sont inférieurs.
C'est
dans
beaucoup
la
moins vrai maintenant.
Mais sauf que tu es garanti aussi dans la fonction publique, alors que dans le privé, tu es en danger tout le temps. Je veux dire, il y a un moment, il faut que vous preniez l'égalité pour tout.
Là, j'ai plus bas aussi.
Oui.
Là, j'ai plus bas.
Mais surtout,
évidemment qu'il faut tout changer. C'est-à-dire que vos amis, les fonctionnaires, il faut les faire travailler sans doute plus. Faut les faire travailler plus.
C'est pas les vôtres.
Faut les faire travailler plus.
Mais.
On n'y arrivera pas.
Mais c'est pas.
Olivier,
je vais vous expliquer.
Vous avez dit quelque chose de faux. Aujourd'hui, non, mais c'est vrai.
Faut que tout le monde
soit pareil. Avant, en moyenne aujourd'hui, l'écart entre les salaires publics et les salaires privés s'est beaucoup réduit parce que les salaires privés sont extrêmement bas. Donc c'est faux en plus.
Alors, je peux vous faire pour les professions difficiles qu'il faut faire partir, on l'avait dit au moment de la.
Vous aviez été bien sur ça.
C'est normal. Un plaquiste qui ça fait 40 ans qu'il bosse et qui a plus de dos, plus de jambes, plus de tout ce que tu veux, évidemment, il a le droit de partir à la retraite à peut-être à 60, 61 ans.
De qui on parle ?
des plaquistes. Mais celui qui est derrière un bureau à la mairie de Paris,
GTP.
Il n'est peut-être pas débordé non plus. Peut-être qu'il peut travailler jusqu'à 65 ou 66 ans.
Ou dans les médias.
Dans les médias, tout le monde veut travailler jusqu'à 80. faut les virer. C'est tout à fait.
Faut mettre une date limite supérieure.
C'est les bureaux. Personne ne veut partir. Mais non, ils sont là à leur poste.
Je vais vous poser juste une question. On va donc discuter dans les semaines qui viennent sur la nature des économies à effectuer. Allons-y on peut y compris le Bruno Le Maire a dit il était d'accord pour regarder concernant le crédit impôt recherche, c'est-à-dire que on met 8 milliards sur le crédit impôt le recherche, c'est absolument pas tracé et certaines entreprises prennent cet argent-là mais ne font rien en crédit impôt recherche. C'est un petit sujet.
Mon cher Olivier, dans le journal où vous collaborez, il y a dans le prochain numéro un excellent papier sur le coût de l'immigration.
J'ai pas fini.
Vous collaborez aussi.
Vous parlez de causeurs.
J'ai pas fini. Et après, est-ce que vous pensez pas que vous allez nourrir dans le pays une exaspération, pour ne pas dire une colère, si on ne revient pas sur la question de la justice fiscale ? Est-ce que les très 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 riches, c'est-à-dire les milliardaires pour lesquels la progressivité de l'impôt sur revenu s'arrête, ne pourraient pas exceptionnellement être mis un peu à contribution ? Pisani Ferry,
exceptionnellement, ça sert à rien.
Pisani, je te donne un chiffre. Pisani Ferry, qui n'est pas un zadiste, qui n'a pas le couteau entre les dents, qui était le conseiller de la politique économique d'Emmanuel Macron en 2017, dit que si on met à contribution à hauteur de 5% sur les 30 prochaines années, les très 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 riches, le haut du plafond, ça fait rentrer 170 milliards. C'est pas inintéressant. Et ça serait totalement indolore pour ces 60. Il y a pas
ce sera tellement indolore que ce sera tellement indolore qu'ils partiront probablement.
Faites attention, parce que si vous aviez dit après, on comprend les gilets jaunes. Mais si jamais dans les mesures à venir, ça tape que sur ceux qui sont sur les franchises médicales, les allocations chômeurs, etc., vous allez de nouveau mettre un pays à feu et à sang.
Est-ce que je peux vous répondre sur le travail ? Laissez-moi vous répondre. Il faut aussi qu'il y ait une justice sur le travail. Il y a dans ce pays des gens qui structurellement ne travaillent pas et d'autres qui travaillent pour financer ceux qui ne travaillent pas. C'est structurel et les classes moyennes sont écrasées par cela. Mais c'est évident.
De toute façon,
mais c'est évident.
Mais il ne va pas falloir faire un petit geste sur la fiscalité du capital.
Mais vous,
vous n'allez rien faire.
Mais vous répondez pas.
Vous n'allez rien faire, Pascal. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Mais
on est
obsédé par les riches.
On est le pays. Moi, je veux bien qu'il y ait encore plus de prélèvements. On est le pays où il y a le plus de prélèvements au monde. Deuxième chose. On est le pays où il y a la meilleure protection sociale au monde.
Et les deux
au
sont,
monde.
Les
deux alors sont qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce deux, qu'on fait en fait? Peut-être... Est-ce qu'on commence à dire tiens la protection sociale, on va peut-être s'y attaquer, ou est-ce qu'on remonte encore les prélèvements? C'est pas idiot ce que je dis.
Les 75 foyers les plus riches ne d'ailleurs, sont imposés qu'à 26%.
Mais arrête avec tes riches, c'est pas signifié.
C'est juste qu'il y a un petit sujet.
Tu n'as pas répondu à Elisabeth sur les gens qui ne font rien.
Et alors, sur la crise sanitaire, ceux qui ont un effet d'aubaine, qui se sont remplis les poches sur la crise sanitaire, vous ne les mettez pas à contribution.
Donc c'est toujours les
conteneurs sur les bateaux.
Je te parle d'un système.
Et la fraude sociale,
pas tous ensemble.
Qu'est-ce que vous faites de la lutte contre la fraude sociale?
Ça n'a pas l'air de vous obséder.
Et la fraude fiscale?
Non, mais de toute façon, on y arrivera.
On
n'y arrivera pas pour une raison simple, c'est ce que je viens de vous dire. Je répète, ce qui est quand même formidable d'avoir ces deux éléments. On est le pays où il y a le plus de prélèvements au monde, et nous avons parallèlement le pays qui a la meilleure protection sociale.
Mais c'est lié.
Mais.
L'œuvre ne va pas sans l'autre.
Enfin bref, on vit en union.
Mais
on
est-ce que vous ne pensez pas, peut-être, moi je veux bien qu'on augmente encore les prélèvements, mais si vous disiez peut-être qu'on va essayer effectivement de mettre en place une protection sociale. Alors, qui peut avoir, effectivement, sur laquelle on peut...
On peut y réfléchir.
On peut réfléchir.
Vous craignez.
Alors, la protection sociale, c'est quoi ? On va donc demander des efforts à certaines personnes.
Mais les protections sociales, c'est quoi ?
C'est
par exemple... Je citais les fonctionnaires tout à l'heure. Peut-être que les fonctionnaires, vous demandez toujours l'égalité et l'équité. Oui. Peut-être que le calcul de la retraite des fonctionnaires du public doit être la même que le calcul des salariés du privé.
Quand je disais
j'ai toujours défendu, si vous me permettez, les gens. En fait, celui qui travaille, qui gagne 2000 euros à 60 ans, il a le droit de prendre sa retraite. Ça veut dire que sa carrière professionnelle...
Quel rapport avec les fonctionnaires, pas fonctionnaires ? J'ai du mal à comprendre.
Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, justement.
Oui. Alors
parce que quand tu as 60 ans, tu gagnes 2000 euros et que tu es plaquiste, peut-être...
Dans le privé, ça n'existe pas, ça ?
Le plaquiste.
On est d'accord.
Oui, mais là, tu as le droit de prendre ta retraite. À mon sens, la société doit te dire
simplement que
vous avez raison, ça n'a pas dû être facile forcément votre vie professionnelle, vous n'avez pas eu peut-être... Bon. Mais en revanche, je citais des fonctionnaires, par exemple, de la mairie de Paris, peut-être qu'ils peuvent bosser jusqu'à 66 ans, parce que peut-être qu'ils ne sont pas débordés non plus. Peut-être.
C'est là où il y a ceux-là, vu ce qu'ils font, c'est peut-être pas la peine qu'ils bossent jusqu'à 66 ans.
C'est là où il y a le plus grand absentéisme.
Voilà.
Ou donc, les fonctionnaires municipaux.
Bon. Il nous reste 3 minutes. Je voulais qu'on parle de Aya. Ouais, parce que alors, on n'a pas pu parler des migrants qui sont. Et Serge Gouard a pris la parole aujourd'hui. Ne m'interrompez pas, soyez gentil. J'ai plein de
choses. Mais pourquoi vous regardez, moi, j'ai rien.
Parce que je vous connais. On n'a pas pu parler de Serge Gouard, maire d'Orléans, qui regrette que des migrants arrivent sur son sol parce qu'on les cache pendant les Jeux Olympiques. Nous n'avons pas pu parler également de Moscou et je le regrette. On n'a pas pu entendre des échanges à l'Assemblée nationale, notamment entre Philippe Lothiaux et Bruno Le Maire, qui étaient intéressants. Mais le débat était vif, grâce à vous. Et je voulais qu'on termine simplement par Aya Nakamura, parce que, évidemment, elle va chanter, elle est pressentie pour chanter l'hymne à la mort d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture. Depuis 2 semaines, le choix d'Aya Nakamura est fait, selon... voilà, et alors...
Sur nous peut s'effondrer et la terre.
Donc elle va chanter ça. Et elle va chanter également, je crois...
La vie en rose.
La vie en rose. Elle va chanter 2 chansons. Et puis on terminera en pensant à Frédéric Mitterrand, qui a été, dont les obsèques ont été célébrées cet après-midi en l'église Saint-Thomas d'Aquin dans le 7e arrondissement. On peut peut-être écouter quelques personnalités qui étaient sur place. Est-ce qu'on peut écouter ou pas, Monsieur Nau?
C'est important d'être tous réunis pour accompagner son départ et penser à tout ce qui nous a légué. En tant qu'homme de culture, de passion, et en tant que ministre de la culture, ce qu'on lui doit beaucoup.
Le sentiment de participer à une cérémonie d'adieu à un ami que nous n'oublierons jamais, un immense talent qui avait tous les dons, et d'abord le don de la gentillesse.
Il avait un esprit très rieur, et c'était un grand sentimental, un grand émotif, et un grand écrivain. Moi, il m'a ouvert 1000 portes et je le porte dans mon cœur, forever.
Et vous aurez remarqué l'élégance de CNews, puisque nous avons interrogé Mme Rima Abdul Malak.
Ah oui. Juste après l'hymne à l'amour.
C'est tout à notre
égard. Exactement.
Mais on est comme ça, nous.
Exactement. Et c'est exactement ce qui montre que nous ne sommes pas rancuniers.
Bon.
Voilà.
Bon, et que... Maintenant, on n'est pas non plus amnésique.
Écoutez, nous ne voulons de mal à personne.
C'est la semaine pascale.
Je pardonne tout, mais je n'oublie pas.
C'est la semaine pascale.
Voilà.
Alors, lundi, mardi, mercredi, il n'y a rien. Mais jeudi,
ça n'est pas que nous soyons masochistes non plus.
Lundi, mardi, mercredi, vous pouvez... C'est la semaine pascale, mais lundi, mardi, mercredi, il n'y a pas d'office liturgique particulier.
D'accord.
En revanche, jeudi saint, vendredi saint. Vendredi, il n'y a pas de messe. Samedi, il n'y a pas de messe, comme vous le savez, puisque l'église est en deuil vendredi. Et la mort n'a jamais le dernier mot dans l'Église chrétienne, puisque dimanche, c'est la résurrection du Christ, comme vous le savez, qui est le message le plus important de l'Église de Rome. La mort n'a jamais le dernier mot.
C'est vrai.
Je vois que mon ami.
Pourquoi il me regarde, moi, je sais pas.
Mais non, mais.
Je sais pas pourquoi vous me regardez. Non, non, je
nous comme s'il était responsable
en
de quoi
cas,
que ce soit.
Tous tu. On est resté quoi.
Non, mais c'est vrai.
Ouais.
Chacun
croit de cette manière.
Mais c'est pas moi qui le dise.
Votre manière de me regarder avec approbation quand vous parlez.
Ne crois pas, doute, généralement. Le doute est au cœur de la.
C'est quand même une belle fête.
Ceux qui croient sont ceux qui doutent. Disait François Mauriac.
Oui, c'était Mauriac.
Ceux qui croient sont ceux qui doutent.
Qui allait à la belle église de Verdelet, à côté de Malaga.
Et qu'a dit Cioran ?
Cioran a dit Dieu doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach.
Merci.
Il peut, qui est une phrase géniale.
Merci.
Effectivement, dans cette période que nous vivons, l'église de Rome parle évidemment au cœur et à l'âme, mais elle devrait aussi parler aux yeux. Elle doit aussi parler au sens, elle doit parler au nez, elle doit parler à l'oreille. Et effectivement, la solennité et Vatican II.
Ah voilà.
Je veux dire, c'est le cardinal Ratzinger qui a dit voilà, la liturgie est devenue opaque et ennuyeuse et banale. Il l'avait dit dans un livre célèbre en 2005.
L'évangile selon saint Matthieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau?
Oui. Donc voilà, c'est tout. C'est après chacun l'a aussi.
C'est absolument. C'est
bon. On est très en retard, mais vous me faites.
Mais ça valait, ça valait.
Vous savez qu'il y a des
choses. Mais non, mais c'est très intéressant. Au-delà de l'aspect religieux, ce qui est très intéressant, c'est. Quoi, c'est plus culturel que religieux en l'espèce. Mais
Vatican II est un progrès sur un très grand nombre de dimensions.
Cette notion de progrès, un jour, je voudrais vraiment qu'on m'explique ce qu'est le progrès. Mais voilà, ça m'intéresse.
Dans le latin. Voilà, je ne suis pas sûr que vous ayez qualité pour parler de ça.
Et le progrès, bon, c'est tout.
Bah écoutez, j'espère une prière. Moi aussi, j'espère une prière, monsieur Proulx. J'espère une prière pour les trois otages franco-israéliens qui sont détenus depuis 174 jours ce soir et dont on rappelle avec Laurence Ferrari tous les soirs les noms, Orion, Ofer et Ouad. Ça, c'est important et on espère effectivement que toutes les prières se dirigeront vers le Proche-Orient, évidemment.
Et nous serons avec vous. Anouk qui était à la réalisation, David Tonnelier était à la vision, Grégory Possidalo était au son, Benjamin No était avec nous comme Marwan Saïr ce soir et Guilhem Lafage, notre équipe de choc. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr et si vous me permettez, Ite Missa Est. Donc,
effectivement, c'est un peu ça. C'est un peu ça.
À demain matin.
Tous les soirs.